Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui, les grands extrêmes. Avec tout à l'heure un voyage dans le sud, à la redécouverte d'un classique, Jules Verne, l'écrivain français le plus traduit dans le monde encore à ce jour, dont l'œuvre compte plus de 60 romans, et un auteur qui est à l'honneur d'un tout nouvel hôtel littéraire à Biarritz, récemment inauguré par le collectionneur Jacques Le Tertre, qui nous fera visiter l'établissement. Mais pour commencer, direction le Grand Nord, avec cette fois une auteure qui publie son premier roman, intitulé Blizzard, aux éditions de l'Olivier. Cette fiction signée de Marie Vintras révèle une plume très acérée, au plus près de la nature, des personnages et de leurs drames, à commencer par la perte d'un enfant qui ouvre le début du livre, lu tout de suite par Marie Vintras.
Je l'ai perdu. J'ai lâché sa main pour refaire mes lacets et je l'ai perdu. Je sentais mon pied flotter dans ma chaussure. Je n'allais pas tarder à déchausser, c'était pas le moment de tomber. Saleté de lacets. J'aurais pourtant juré que j'avais fait un double nœud avant de sortir. Si Bénédicte était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentive. Il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut, à sa manière. Il n'y a qu'une seule manière de faire à l'entendre. C'est drôle. Des manières de faire, il y en a autant que d'individus sur Terre. Et ça doit le rassurer de penser qu'il sait. Peu importe. J'ai lâché sa main combien de temps? Une minute, peut-être deux. Quand je me suis relevée, il n'était plus là. J'ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher. Je l'ai appelé, j'ai crié autant que j'ai pu, mais seul le souffle du vent m'a répondu. J'avais déjà de la neige plein la bouche et la tête qui tournait. Je l'ai perdu et je ne pourrai jamais rentrer.
Bonjour Marie Vintras.
Bonjour.
Merci beaucoup pour cette lecture du tout début de votre roman, paru sous le titre Blizzard aux éditions de l'Olivier. La lecture de cette scène déchirante, on vient de l'entendre, où une jeune femme, Bess, désorientée, dans un décor de glace et de brouillard, fait le constat terrible d'avoir perdu le petit garçon qui l'accompagnait. Une tragédie qui peut nous faire penser à Arnaldur Indridason, par exemple, romancier islandais qui a écrit sur ce phénomène de la disparition fréquente des personnes dans la brume en Islande. On peut également citer l'Américain Russell Banks et Affliction. Sa fiction, justement ancrée dans un paysage de désert blanc hivernal. Mais c'est aussi un cadre que l'auteur français Jean-Paul Dubois tient du décor littéraire idéal. Et il dit souvent, si vous avez le froid, si vous avez la neige, la nature comme personnage, alors vous avez toutes les chances de réussir votre roman. Et vous, Marie Vintras, qu'est-ce qui a déclenché ici votre écriture? Le lieu, l'Alaska où se déroule l'action du livre, ou le motif, la perte d'un enfant, et peut-être plus largement, la perte d'un être cher?
Alors c'était clairement le motif. Je cherchais un endroit où on puisse perdre un enfant. Il n'y a pas tellement d'endroits où on puisse ne plus repérer quelqu'un immédiatement après l'avoir lâché. Et donc j'ai pensé à la neige, au blizzard, et là c'était une évidence, c'était forcément le blizzard des territoires nord-américains et donc l'Alaska. Mais je pense que c'est un truc inconscient qui m'a fait cheminer vers ce décor-là.
Donc on s'arrête sur le motif, la perte d'un enfant. C'est un sujet très très grave, surtout quand il s'agit d'un premier roman, sujet douloureux. Pourquoi Marie Vintras?
Mais alors le paradoxe, c'est que effectivement les lecteurs se focalisent sur la perte de l'enfant, alors que je vois vraiment ça comme un élément qui passe finalement au second plan. C'est le fil rouge du livre, cette recherche de l'enfant qui est disparu. Mais c'est vraiment cette situation d'urgence qui va être un prétexte à l'introspection et à la... On m'a d'ailleurs dit que c'était un procédé littéraire hyper utilisé. C'est vrai d'ailleurs, très classique. Mais c'est... J'ai eu l'impression d'allumer la mèche avec la disparition de l'enfant et puis que la mèche allait suivre des détours pas nécessairement prévus au départ pour le lecteur.
Après avoir entendu la voix de Bess, donc, vous nous faites entendre la voix de trois autres protagonistes. Bénédicte, le père ou le tuteur de l'enfant, on ne sait pas encore. Cole, un voisin, ami, qui l'accompagne pour chercher Bess et Tom, le petit garçon, et enfin Freeman, un homme arrivé assez récemment dans ce village, un peu considéré encore comme un étranger. Et ce sont quatre monologues intérieurs que vous allez alterner dans cette opération de sauvetage, avec un mot-clé, survivre. Où est-ce que vous êtes allé puiser en vous, Marie Vintras, cette notion d'urgence à survivre? Est-ce que vous avez fait vous-même l'expérience d'être dans une situation de grand danger?
Oui, c'est drôle parce que il y a 10 ans à peu près, 11 ans, j'étais au Chili exactement sur l'épicentre du très gros séisme de février 2010 et je suis revenue en France complètement sans dessus dessous, en étant en plus la seule dans mon entourage à avoir vécu cette situation de en bord de mer, tsunami, tremblement de terre extrêmement fort, vraiment très 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 fort. Et c'est une expérience de vie et de mort, même si les Chiliens sont tout à fait préparés au tremblement de terre et il y a très peu de décès. Je suis revenue chamboulée, puis j'étais la seule à avoir vécu cette expérience. Autour de moi, mes collègues, amis étaient restés en France. Et ça a déclenché un travail. Bon, j'ai tout simplement cherché une analyste pour parler de ça. Et en fait, elle a permis, elle, de déclencher un travail qui est abouti sur l'écriture du roman d'une manière différente de ce que j'avais essayé d'écrire, c'est-à-dire avec un stylo et un crayon. Et je pense que peut-être sans ce tremblement de terre-là, sans cette expérience-là, je n'aurais peut-être toujours pas réussi à finir ce que j'écrivais depuis des années et auquel je n'arrivais pas à mettre un point final.
Et donc, à partir de cette expérience personnelle et un peu traumatisante, vous avez transposé.
Oui, alors c'est pas du tout de manière consciente, là je vous le raconte comme ça, j'y pense maintenant, mais j'ai toujours pensé que dans les situations d'urgence, voilà, les gens se révélaient, ils révèlent le pire comme ils révèlent le meilleur, mais on peut, avec cette expérience personnelle, on peut aussi révéler quelque chose qui avait besoin de jaillir, quelque chose qui avait besoin de sortir et qui a besoin d'être exprimé, d'être éprouvé.
Et c'est en effet ce qui se passe ici dans ce roman, Blizzard, il y a une révélation pour chacun des personnages, parce que le temps de quelques heures, le temps de cette tempête, ce Blizzard, vous mettez en place un dispositif de narration qui ressemble un peu à un puzzle, avec l'avancée des personnages dans la neige, mais aussi le bouillonnement de leurs pensées, qui par flashback nous font comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils sont, et ce qui les lie les uns aux autres. Est-ce que vous voulez bien, pour commencer, Marie Vintras, nous présenter Bénédicte, par exemple?
Bénédicte, c'est vraiment la figure de l'homme américain de certains romans américains que j'aime beaucoup. Je pense à Ken Kesey dans Quelquefois j'ai une grande idée, à Hank Stamper. Vraiment ces types bourrus, baraqués. J'ai vraiment visualisé Bénédicte comme ça, un type qui se contente de cette vie au grand air. Ça lui suffit. En fait, il a pas d'exigence supérieure que de continuer à vivre. Toujours cette vie avec, sans d'ailleurs voir qu'elle a nécessairement évolué et que ceux avec qui il vivait ne sont plus là.
Il faut dire qu'il est né là, il tout simplement. Là, ouais. C'est sa terre natale. Mmh. Ses parents se sont installés ici. On va apprendre que d'ailleurs les arrière-grands-parents viennent de France. Mmh. Mais toujours est-il que lui, cet Alaska, c'est le seul endroit qu'il a vraiment connu et qu'il aime profondément.
Oui, lui, il y est vraiment, vraiment par choix. Je dirais sur les quatre, enfin un choix. D'ailleurs, c'est pas un choix en fait. Il est né là, mais c'est une véritable affirmation de voilà. Il appartient au lieu dans lequel il habite. Il est vraiment là. Et il n'imagine pas vivre ailleurs.
Et donc, il a un frère. Il avait un frère, et son frère est parti. Et puis, ses parents sont morts. Et Bénédicte se sent coupable de n'avoir pu rien faire. Et on se rend compte que la culpabilité, finalement, c'est ce qui va aussi les lier aux autres personnages. Par exemple, Bess, cette jeune femme qui est censée s'occuper du petit garçon, qu'il a rencontré un peu par hasard dans le Nevada. Elle aussi, elle se sent responsable de ce qui est arrivé longtemps auparavant à sa sœur. Et puis Freeman, cet ancien militaire et policier, lui aussi, il est poursuivi par le décès de son fils. Cole, on ne sait pas encore tout de suite ce qui lui est arrivé, mais clairement, il a de sales histoires à cacher. Mais finalement, Marie Vintras, est-ce que ce n'est pas le sujet central de votre roman? Cette culpabilité qui nous hante, et comment faire pour à la fois vivre avec, mais surtout s'en débarrasser? Parce que c'est un poison, on ne peut plus avancer sinon.
C'est vraiment ça, la culpabilité. Pour moi, c'est au-delà du du thème de la disparition ou d'autres thèmes que les gens d'ailleurs voient sans que moi je les ai nécessairement vus. C'était vraiment la culpabilité. Ça, je suis assez fascinée par la culpabilité, d'autant plus fascinée quand il n'y a pas de faute en réalité. Ils ont chacun des degrés de culpabilité, des raisons de culpabiliser ou pas de raisons de culpabiliser. Mais je suis fascinée par des gens qui portent des fardeaux de culpabilité alors que la faute est inexistante. Et d'autres, à l'inverse, on va pas citer Cole, qui pourraient culpabiliser, mais chez qui la culpabilité... Donc c'est une culpabilité avec faute, sans faute. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, je trouvais ça très intéressant comme thème.
Et pourquoi ça vous fascine à ce point ?
Parce que moi, en tant que fille, j'ai beaucoup culpabilisé. Je pense qu'on apprend, peut-être que ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais je pense que on apprend pas aux filles, aux petites filles à culpabiliser, mais c'est une notion qui très vite rentre dans l'éducation des filles. Il faut faire attention à être décente, à pas montrer sa culotte dans la cour de récréation. C'est vraiment induire un fond de culpabilité. Je dis volontiers, moi, que j'ai culpabilisé pendant 40 ans et je ne sais toujours pas de quoi je culpabilisais.
Mais c'est un sentiment qui est transmis par la société, vous pensez ?
Je crois que c'est vraiment très inconscient. Moi qui ai une fille, j'ai essayé d'aplanir ça. Et en réalité, par moments, je la vois ressortir des mécanismes de culpabilité, beaucoup moins que moi je ne ressentais. Mais la faute arrive par la femme. Enfin, c'est quelque chose qui est très...
Et Ève croque à la pomme
Peut-être, oui. C'est ça, encore elle.
Mais... Donc c'est aussi l'éducation judéo-chrétienne.
Oui, judéo-chrétienne, mais je trouve que là il y a une vraie différenciation entre les garçons et les filles. Il y a, on va dire, un garçon, vas-y, tente, et une fille, attention, si tu es pas sûr de réussir, ne le fais pas. Si tu, voilà, c'est une opinion, une conviction personnelle qui n'est propre qu'à moi, mais.
En tout cas, ce qui est très intéressant quand je vous écoute, Marie Vintras, c'est que ici dans le roman, en l'occurrence, il y a une seule femme. Il y a plutôt des hommes et on est dans un univers plutôt viril où il faut savoir physiquement affronter la nature. D'où vient votre connaissance de ce milieu-là ?
Moi, je viens d'une famille de filles, on est 5 filles, donc il n'y avait pas de garçons sous la main. Donc j'ai quand même beaucoup observé les hommes que j'ai pu croiser dans ma vie, même si c'est évidemment pas une catégorie générique. Ils sont très représentés dans les films, très représentés dans les livres. Et la représentation féminine est peut-être un peu plus caricaturale ou un peu plus... Je voulais un personnage féminin qui, pour moi, n'est pas fragile. Parce qu'elle est abîmée, elle a décidé de porter quelque chose qui est extrêmement lourd. C'est son choix de vie. Et parfois, on me dit c'est un personnage fragile. Et non, je ne la trouve pas fragile, en fait. Je la trouve forte. Elle est là, voilà, elle est venue volontairement. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait ce qu'elle porte. Elle sait pourquoi elle a choisi cette vie. Donc, je trouve que c'est une femme...
Ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Marie Vintras. Je trouve qu'elle a la force réunie des 4 hommes, d'ailleurs, qui l'entourent. Parce qu'elle assume... Elle assume beaucoup ses choix. Et puis, elle assume aussi sa fragilité, ce qui lui donne une force supplémentaire, parce qu'elle est tout à fait capable de se battre. Et on va la voir, en effet, se battre pour récupérer cet enfant, pour aller le chercher là où elle peut l'imaginer. Et surtout, pour éliminer sur la route, parce que c'est ça aussi, les prédateurs qui auraient pu leur faire du mal. Ici, dans Blizzard, Marie Vintras, donc, vous abordez entre les lignes plusieurs sujets sociétaux importants. Le racisme, par exemple, dont Freeman, qui est un personnage noir américain, fait l'expérience. Mais aussi les violences sexuelles faites aux femmes, faites aux enfants. Et est-ce qu'également, en citant Henry Thoreau, qui est cet écrivain et naturaliste américain, il y aurait une question écologique que vous posez ici ?
Je n'ai pas voulu la poser de manière consciente, mais c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Et je me suis rendu compte en creusant un peu que l'Alaska, terre sauvage par excellence, est très très attaquée, très abîmée et souffre vraiment directement du réchauffement climatique. C'était pas le sujet du livre, mais c'est vrai que je voulais essayer de ramener... La nature est très importante dans le livre. Le Blizzard est un personnage à part entière et là... Cette révolte naturelle et voilà, petite expression. Bon, c'est pas un livre écologique, mais c'est quelque chose qui importait quand même.
Est-ce que vous pourriez vivre en Alaska, vous aussi, loin de tout ?
Non, moi je suis bretonne, j'ai besoin du bord de mer, mais je pourrais pas vivre sans la mer. Non, là vraiment, je crois pas que je pourrais vivre en Alaska. Par contre, j'ai vraiment soif de ces très grandes étendues, comme on en trouve au Chili, en Islande. Ça, c'est vraiment quelque chose qui de plus en plus correspond à un besoin chez moi.
Et vivre sur une île, par exemple, puisque vous aimez. L'océan.
Oui, j'ai encore besoin de l'agitation de la ville. J'ai pas, mais pour combien de temps? C'est invivable de toute façon, donc je ne crois pas qu'on tiendra éternellement dans ces grandes villes.
Comme il s'agit de votre premier roman, on ne sait pas encore beaucoup de choses à votre sujet, Marie Vindras. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas et quand vous ne lisez pas?
À vrai dire, j'écris et je lis quotidiennement parce que je suis avocate, mais je ne plaide pas, je rédige des mémoires pour un ami devant la Cour de cassation. Donc ce sont des procédures écrites extrêmement codifiées avec des formules. Mais c'est la dernière étape, la Cour de cassation. Donc c'est un peu la dernière carte à jouer. Et il faut présenter les dossiers des clients, parfois en enjolivant l'histoire ou en racontant leur histoire de telle manière qu'ils aient l'impression d'avoir été entendus. Donc j'ai passé 20 ans à raconter les histoires des autres, à les lire, à les réécrire. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il était temps d'écrire ma propre histoire.
Si vous êtes avocate, c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes fascinée par la notion de culpabilité.
Alors, je suis pas pénaliste, je fais du droit du travail, donc heureusement, j'ai échappé. Non, ça, je pense que c'est vraiment plus un thème personnel que professionnel.
Vous avez choisi comme pseudonyme Vindras, qui est donc à la fois le nom d'un personnage littéraire, mais aussi le nom que s'était choisi une femme écrivaine morte au début du XXe siècle. Pourquoi ?
Je trouve qu'il y a beaucoup de très grandes femmes qu'on a totalement oubliées. C'était la première femme rédactrice en chef d'un journal français, la première femme grand reporter. Elle descendait dans les mines pour donner le repas aux mineurs et témoigner des conditions de travail. Elle se faisait embaucher dans les filatures pour témoigner de la longueur des journées. Elle était dréfusarde, suffragette. Elle refusait. Enfin, ça avait l'air d'être une sacrée bonne femme. Il y a eu des milliers de personnes à son enterrement et elle a disparu des radars totalement.
Mais vous la connaissiez ?
C'est par un ami qui est un grand fan de Jules Vallès. C'est lui qui m'a dit, mais regarde un peu cette femme-là, elle a un parcours très très moderne, très intéressant, très moderne. Et j'avoue que je suis un peu tombée amoureuse de Caroline Rémy, qui a une tête un peu revêche, mais qui était un vrai personnage, une femme très forte.
Jules Vallès, qui était donc à la fois son ami, son amoureux.
Elle était le secrétaire de Jules Vallès. Elle insistait sur le masculin. Elle lui vouait une admiration sans borne. Et donc, elle écrivait parfois sous le pseudonyme d'Arthur Vintras, en empruntant elle-même le nom du personnage de
Jules Vallès.
De Jules Vallès.
Qu'on retrouve dans sa trilogie romanesque. Ça veut dire aussi, Marie Vintras, que la littérature, c'est un jeu?
Oui, j'aime bien l'idée du pseudonyme, du costume qu'on enfile. Oui, ça c'est assez ludique. Oui, il faut garder un peu de joie et de plaisir, que ce ne soit pas un exercice de souffrance. Donc j'ai créé un petit contexte un peu ludique pour moi.
Merci beaucoup, Marie Vintras.
Merci, c'est moi qui
je rappelle le titre de ce roman, de ce premier roman, Blizzard, aux éditions de l'Olivier. Et merci à Jérémy Boucher, qui a enregistré l'émission avec nous. Et après le Grand Nord, direction le sud, le sud-ouest de la France exactement, face à l'Atlantique, dans la ville de Biarritz où vient d'être inauguré l'hôtel littéraire Jules Verne. Une idée que l'on doit au collectionneur et bibliophile Jacques Le Tertre, déjà propriétaire de 5 autres hôtels littéraires, dont le Flaubert à Rouen et le Swan consacré à Marcel Proust à Paris. Un grand lecteur également qui ici réalise un rêve lié à ses lectures d'enfants, parmi lesquelles 20 000 lieues sous les mers, dont voici un extrait avant de retrouver Jacques Le Tertre.
Vous aimez la mer, capitaine ?
Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain, c'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour. C'est l'infini vivant, comme l'a dit un de vos poètes. Et en effet, monsieur le professeur, la nature s'y manifeste par ses trois règnes, minéral, végétal, animal. Ce dernier y est largement représenté par les quatre groupes de zoophytes, par trois classes des articulés, par cinq classes des mollusques, par trois classes des vertébrés, les mammifères, les reptiles et ces innombrables légions de poissons, ordre infini d'animaux qui comptent plus de 13 000 espèces dont un dixième seulement appartient à l'eau douce. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle. Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Ah, monsieur, vivez. Vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Là, je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre.
Jacques Le Tertre, où sommes-nous exactement ?
Vous êtes au dernier étage de l'hôtel Jules Verne. Vous êtes à Biarritz, il fait un soleil superbe. Et nous allons parler de Jules Verne.
Quel est le lien entre Jules Verne et Biarritz ?
Il est complexe. Il est d'abord parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, Jules Verne, c'est la Belle Époque, c'est la mer, c'est le phare, c'est les vacances, et tout ça, Biarritz l'épouse idéalement. La réalité, c'est que si vous cherchez un lieu qui, en France, ressemble à la vision que Jules Verne a de la société, du mode de fonctionnement, de la vie, je vois pas un endroit qui ressemble plus que Biarritz. Ne le dites pas aux Nantais, mais je trouve Nantes un peu loin de la mer. Et ne le dites pas aux gens d'Amiens, parce que Amiens, et qui est un endroit superbe, n'est pas porteur de voyage comme une ville où il y a des phares, où il y a des plages, où il y a un mode de fonctionnement. Nous avons mis un peu partout ici des représentations de Biarritz à la Belle Époque, à l'époque ou pendant le Second Empire, et on voit à quel point cette ville est faite pour cela.
Nantes, je le précise, ville natale de Jules Verne, Amiens où il a vécu. Biarritz, à votre connaissance, il y serait passé ?
Oui, il est passé. Il y a une image chez Jules Verne qu'il faut enlever de notre esprit, c'est l'idée du voyageur qui ne voyage que dans sa bibliothèque. En fait, il a plus voyagé que ce qu'on pense, mais il a voyagé peu de temps. En fait, le voyage qu'il adorait, c'était sur son bateau. Comme il a gagné très vite beaucoup d'argent, il s'est acheté des yachts de plus en plus gros, et il a sillonné toute l'Europe à ce moment-là. Il aimait bien ce genre de voyage. Il aime la mer, fondamentalement, c'est ça. C'est quelqu'un qui aurait aimé être, un marin.
Il s'agit de votre sixième hôtel littéraire. Est-ce que Jules Verne est néanmoins une lecture d'enfance et un auteur à qui vous auriez aimé consacrer peut-être un espace depuis longtemps ?
Ça, c'est évident, parce que si j'avais dû procéder par ordre chronologique par rapport à ma vie, j'aurais dû commencer par Jules Verne. C'est le premier que j'ai lu. Je l'ai aimé passionnément, comme l'aiment les enfants un peu solitaires qui trouvent dans la lecture non seulement une forme de refuge, mais aussi une forme d'évasion. Donc, c'est vrai que j'aurais dû commencer par Jules Verne. Le problème, c'est que à cette époque-là, le premier hôtel qui était disponible pour faire une rénovation, c'était un hôtel dans le 8e arrondissement, et il allait idéalement avec Marcel Proust, donc d'où le Swan qui a été le premier.
Alors, quel est l'état d'esprit de cet hôtel littéraire Jules Verne ici à Biarritz ? Racontez-nous un peu comment vous l'avez conçu.
Mais il est fait exactement comme les autres, c'est-à-dire chaque chambre correspond à un personnage. Il y a 500 livres pour que les gens peuvent prendre et emmener dans leur chambre. Et il y a partout des références à Jules Verne. Toute ma collection de Hetzel, vous avez tous les différents plats qui existent, le plat à la map monde, à l'encre, au médaillon et tout, qui sont au-delà du livre et du contenu, de très beaux objets.
Alors pour rester sur l'hôtel, trois étages thématisés, n'est-ce pas ?
Oui, parce que entre les voyages extraordinaires, les œuvres parallèles, on frôle les 100 œuvres. Et ici, je n'ai que 76 chambres. Il y a un étage qui est consacré à la mer, parce que ici à Biarritz, c'était idéal. Un étage consacré au voyage, et un étage plus divers, où vous avez aussi bien les personnages, qui ont été ses amis, que les éléments liés au fantastique. Quand vous êtes dans la chambre, ça va peut-être vous pousser à lire un Jules Verne que vous n'avez pas lu. Parce qu'en fait, tout le monde a en tête, allez quoi, une quinzaine de grands Jules Verne, qui d'ailleurs ne sont pas tous des romans, entre guillemets, de science-fiction, puisque quand il fait Michel Strogoff, par exemple, ou Mathias Sandorf, ou quand il fait même des voyages simples, 5 semaines en ballon, c'est typiquement un voyage qui ne suppose pas des moyens techniques invraisemblables. Le tour du monde en 80 jours, pareil. Et de temps en temps, vous avez la percée technique. Vous avez de la Terre à la Lune, vous avez Voyage au centre de la Terre. Et alors là, on voit que l'imagination de Jules Verne est débordante. Et on voit à quel point c'est en même temps quelqu'un qui connaît parfaitement les avancées techniques de son époque. Il est au courant de tout.
Alors précisément, ici, une des beautés de cet hôtel, comme les autres, c'est qu'il y a à la fois des livres à disposition, mais il y a aussi beaucoup de photographies d'époque, de Jules Verne. Il y a une map monde illuminée qui montre tous les voyages, les voyages extraordinaires. Est-ce qu'il y a aussi des objets de collection, puisque vous êtes d'abord collectionneur, Jacques Le Terre ?
Je suis avant tout bibliophile. C'est-à-dire que ce qui compte pour moi, c'est le livre. Alors, les objets, ils servent à ponctuer votre regard. Vous venez à Biarritz pour, souvent, pour des vacances, pour des raisons professionnelles. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions, vous n'allez pas traverser, sauf si vous êtes un Vernien fanatique, vous n'allez pas traverser toute la France juste pour passer 3 jours dans mon hôtel. Mais une fois que vous allez être là, il faut que votre regard soit attrapé par quelque chose qui a un lien avec Jules Verne. Ça peut être un jeu de loi, ça peut être une map monde. Il faut que partout, il n'y ait pas un objet qui ne puisse pas se raccrocher d'une manière ou d'une autre à Jules Verne. Et là, le travail qui a été réalisé par ma conseillère littéraire Hélène Mongeant et par notre décoratrice Alette Prime, et je trouve remarquable parce que c'est à la fois présent partout et pas de nature. Vous n'êtes pas dans un musée touche-à-tout.
Quand vous venez ici, Jacques Le Tertre, vous choisissez de dormir dans quelle chambre ?
Il y a une chambre que j'aime particulièrement, qui est la chambre de Hetzel, qui est au rez-de-chaussée parce qu'elle me permet d'aller, mais ne le répétez pas, d'aller directement à la piscine.
Ici se referme cette visite à l'hôtel littéraire Jules Verne à Biarritz, dont vous trouverez toutes les coordonnées sur la page de l'émission, ainsi que les références du roman de Marie Vintras. Vous pouvez aussi réécouter ce magazine sur le site de RFI.fr, sur l'onglet podcast, à la page Littérature sans frontières. Et vous pouvez également vous abonner sur les plateformes pour ne manquer aucun numéro du magazine littéraire. À très bientôt.